Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Donc, bon midi à tous nos auditeurs et auditrices. Ça me fait toujours plaisir d'être ici pour animer À ta santé en cette dernière émission, en fait, de la saison 2021. Pour finir en beauté cette saison, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Louis-Philippe Noël, qui est le cofondateur de BioTwin, une technologie émergente dans l'approche de la médecine préventive et intelligente. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, puis bienvenue à l'émission, Louis-Philippe.
Merci, ça fait plaisir.
Donc, avant de parler un petit peu plus de BioTwin, puis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites aussi pour la santé publique, si on veut, pourrais-tu nous résumer un peu ton parcours professionnel, puis qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu t'es intéressé davantage à la santé globale dans les dernières années là, entrepreneuriales?
On pourrait remonter là longtemps, mais BioTwin est ma quatrième entreprise, la troisième dans le domaine de la technologie. J'ai commencé jeune, en début vingtaine, à avoir un commerce informatique où j'étais représentant. J'ai toujours été passionné de technologie, dont les ordinateurs, ce qui m'a amené à 24 ans à partir ma dernière entreprise qui s'appelait InVu, qui était une entreprise de solutions interactives pour les hôtels. Donc, on offrait différents types de technologies, un peu comme les hélicos de Vidéotron pour les chambres d'hôtel. On s'est rendu à 55 000 chambres d'hôtel. J'ai eu l'entreprise pendant 13 ans que j'ai vendu à un groupe de Japonais qui nous l'a amené à l'international, amené une application mobile, différentes choses. Je suis resté avec eux 2 ans. Donc, en 2017, j'ai pris une pause. Et dans ma pause, j'ai un peu fait une rétroaction de ce que j'avais aimé, moins aimé. Puis dans mes conclusions, je suis toujours passionné de technologie, un peu moins de l'hôtellerie. Puis ce que je cherchais comme entreprise suivante, bien, c'était d'appliquer, de trouver une technologie qui peut s'appliquer au domaine de la santé. Toujours été impressionné de mes amis en médecine qui, s'ils ont un pouvoir, ça s'apprend, mais d'avoir un impact sur la vie d'un individu qui est majeur. Fait que je me suis dit, comment est-ce que je pourrais appliquer une technologie qui pourrait avoir un impact similaire? Donc, ça a été un long processus d'analyse, de marché, de rencontre avec des experts pour en venir à la création de BioTwin. Là, ça fait maintenant un petit peu plus que 2 ans.
Et donc, super intéressant comme parcours. Puis on sait, tu en as parlé un petit peu de la médecine puis de l'impact que les médecins peuvent avoir justement sur la santé des gens, même la vie par moment. Puis justement, on l'a vu dans les dernières années, la médecine moderne nous a permis, tu sais, d'améliorer considérablement l'espérance de vie, surtout dans les pays industrialisés. Des fois, bon, c'est un peu discutable aussi si la qualité de vie est augmentée, là, mais du moins, l'espérance, elle l'est. Puis, parallèlement à ça, bien, on remarque quand même une importante augmentation d'incidence de cancer ou de maladies cardiovasculaires qui sont un peu comme la pierre angulaire en ce moment dans la santé. Puis, tu sais, on pourrait dire, bon, est-ce que c'est la faute des habitudes de vie? Est-ce que c'est la faute de notre environnement, notre génétique? Puis, comment on peut aussi contrôler tout ça? Puis, avec BioTwin, je pense que tu essaies de t'intéresser un peu à certains marqueurs là, de ces maladies-là qu'on pourrait peut-être prévenir un peu d'avance. Puis, tu sais, pourrais-tu nous parler justement un peu plus du principe derrière BioTwin puis comment justement tu essaies de combattre là, ces maladies modernes?
Oui, plusieurs questions dans une, mais je vais commencer par présenter brièvement ce que c'est BioTwin. BioTwin, on fait une copie virtuelle d'un individu. Donc, on prend un individu et grâce à des échantillons biologiques, on se pique le doigt, on donne des gouttes de sang sur un papier et salive aussi, avec des biométriques comme les montres intelligentes, on collecte ces informations-là sur une base récurrente pour vraiment bâtir une copie virtuelle. Le terme exact ou technique, c'est jumeau numérique. Donc, on fait un jumeau numérique de l'individu. Ce qui est intéressant, c'est que la donnée, elle est longitudinale. Donc, on suit l'individu dans le temps. Et on peut, à partir de cela, comparer l'individu avec lui-même, avec une groupe de référence. Les possibilités sont un peu illimitées. Tout ça est fait grâce à l'intelligence artificielle en arrière, mais ce qu'on veut prioriser, c'est arriver à détecter très, très tôt différents types de cancers, différents types de maladies. Un jumeau numérique, à la base, permet trois types de services. La détection early, désolé de l'anglophone, la prédiction, mais aussi la simulation. Ça vient du domaine manufacturier. Il n'y a pas un avion dans les airs, qu'il n'y a pas un jumeau numérique au sol qui va suivre. Donc, on peut prédire une pièce qui va briser, détecter certains petits bris, donc l'envoyer en maintenance plus rapidement. C'est un peu le concept qu'on applique à l'être humain. Donc, il y a différents types de cancers qui peuvent se... Donc, on a des signes plus tôt qui peuvent arriver, qui peuvent suivre. Puis ces maladies-là sont tout le temps multifactorielles. C'est pas juste l'environnement, c'est pas juste tel marqueur, c'est souvent une combinaison. Donc, en créant un jumeau numérique, on peut vraiment suivre ces différents facteurs-là avec le temps, dans le but d'arriver à détecter et prédire plus rapidement.
C'est super intéressant. Puis est-ce que vous avez commencé justement actuellement à suivre certaines personnes ou où vous en êtes là, dans le processus?
L'entreprise vient d'avoir ses 2 ans. On est encore dans les tout débuts. On a un premier projet pilote qui a été fait en collaboration avec le club de triathlon de l'Université Laval. Et là, on commence à étendre à d'autres clubs de triathlon et à d'autres clubs de l'Université Laval. Donc, on est présentement en mode invitation seulement. On travaille avec certains coachs. Et plus ça va, plus on étend. Au mois de février, on va annoncer notre second projet pilote dans le domaine de la nutrition. On est accompagné par une grosse pharmaceutique qui nous finance le projet. Et ils ont comme objectif d'arriver à détecter et prédire certains marqueurs reliés à l'obésité. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et ce domaine-là qu'on appelle le wellness, fitness et nutrition, le but, c'est de nous amener au domaine de la santé. Il faut éduquer notre intelligence artificielle à reconnaître un cancer, à reconnaître. Donc, en parallèle, on a des projets de recherche avec des chercheurs, entre autres l'IUCPQ, avec le CHU, qui donnent accès à des biobanques phénotypées, par exemple, dans le but d'éduquer notre solution.
Donc, actuellement, j'imagine qu'avec les clubs de triathlon, le but n'était pas nécessairement de trouver là, des marqueurs de cancer, mais qu'est-ce que vous alliez chercher, en fait, comme information? Est-ce que c'était plus pour améliorer la performance ou c'était par rapport à...
Le but initial, la preuve de concept, c'était de démontrer le principe du jumeau numérique. C'est-à-dire qu'à partir de quelques échantillons, on est capable de suivre quelqu'un dans le temps et vraiment de démontrer que chaque individu est unique. Et c'est ce qu'on a démontré. Donc, on est capable, à partir de juste un échantillon, de trouver quel est l'individu et de le suivre dans le temps. Et... L'approche de BioTwin n'est pas focussée sur un ou des biomarqueurs, mais vraiment sur l'ensemble, sur un profilage. Un des gros défis de la santé moderne, c'est qu'il y a des millions de biomarqueurs qui n'ont pas été identifiés. On utilise l'intelligence artificielle, non pas pour les identifier, mais pour les profiler. Ce groupe-là, on l'associe avec telle condition, avec tel phénotype. Le focus premier qu'on a avec les coachs au niveau du triathlon, c'est beaucoup au niveau de la fatigue. C'est-à-dire que lorsqu'un athlète dit « je suis fatigué », est-ce qu'on remarque la même chose au niveau du profil biologique? Est-ce qu'il y a une fatigue musculaire? Est-ce qu'il y a une fatigue au niveau de l'endurance versus ce que l'athlète peut reprocher, peut mentionner? Donc, on essaye de corréler pour aider les coachs. L'approche de BioTwin, notre client, c'est jamais l'usager. C'est vraiment le professionnel de la santé. Donc, on donne des outils aux coachs ou à un nutritionniste pour les aider à mieux faire leur travail.
OK. Donc, moi, mettons que j'ai l'application, que je participe à ça en tant que, par exemple, athlète. Est-ce que je reçois des informations là, par rapport à moi-même, là, finalement, à mes marqueurs de fatigue ou d'entraînement sur une application ou c'est mon coach qui va recevoir des informations de moi?
C'est un peu les deux. C'est vraiment le coach qui recevra l'information, qui pourra la partager par la suite via l'application ou non. Donc, nous, le coach nous partage certaines informations. Avec l'athlète, tout est clé en main. La prise de collecte des échantillons, tout est analysé clé en main. Le coach n'a pas à s'en occuper. Donc, c'est à lui qu'on partage les résultats, qui doit les adapter parce que on est encore dans les débuts. Certains athlètes, des fois, sont peut-être un profil d'exception. Donc, le coach permet de valider et d'adapter. Ce qu'on veut faire dans les prochains mois, dans la prochaine année, c'est d'arriver aussi à prédire ou simuler des plans d'entraînement pour arriver à prédire des résultats de course. Donc, quel serait le plan d'entraînement idéal ou optimal? On ne vise pas une précision de 100%, Mais juste avec une précision de 20-30%, c'est déjà mieux que ce qui se fait. Il se fait rien présentement. Donc, c'est des outils au coach qu'on peut donner, qui encore là est basé vraiment sur le biométrique et sur la biologie de ces athlètes.
Super intéressant. Puis là, je comprends qu'actuellement, c'est par exemple des données, là, donc c'est des prises de sang qui sont envoyées à une certaine fréquence.
Oui, mais en fait, c'est du sang capillaire. Donc, un peu comme une aiguille d'un diabétique. Donc, on peut, à la maison ou dans un gymnase, ça peut être fait partout, c'est une petite aiguille qui automatiquement pique le doigt et va sortir 4-5 gouttes de sang. Donc, les gouttes de sang sont mises sur un papier, on fournit le kit, c'est mis ensuite dans une enveloppe, c'est renvoyé à BioTwin. On a dans plusieurs boutiques sportives des points de dépôt, mais on a aussi, ça peut être envoyé par la poste. Donc, c'est automatique. C'est flexible au niveau des athlètes, la récurrence. Certains nous envoient un échantillon par mois, d'autres en font, donc sont à 3-4 fois par semaine. Ça dépend ce qu'on veut suivre. Plus on a d'informations, ben plus on peut aider et assister. Donc, c'est le principe.
OK. Puis, donc, j'imagine que, bon, en ce moment, c'est très niché, là, donc ça s'adresse, comme tu l'as mentionné, à des athlètes, puis là, éventuellement, peut-être plus un autre niveau, là, au niveau de la nutrition, quand tu parles de wellness. Est-ce que tu as l'impression que ça va prendre du temps avant que ce genre de technologie-là devienne accessible à l'ensemble de la population?
Pas tant que ça. Les technologies s'accélèrent énormément. Le gros défi, c'est d'éduquer pour permettre une adoption. Je prends l'exemple des téléphones intelligents et le App Store. Il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas de téléphone intelligent. L'adoption s'est faite progressivement. Je pense que c'est un peu la même chose. Le défi qu'on a présentement dans le wellness, c'est que la valeur ajoutée est un peu limitée. C'est-à-dire que présentement, dans la population générale, il y a peu de gens qui ont des coachs ou qui ont des nutritionnistes. On se limite à ces gens-là, mais le but, c'est de partir afin de nous amener, on vise le domaine de la santé d'ici environ 1-3 ans. Donc, dans le domaine de la santé, on a une valeur beaucoup plus élevée, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement, je dirais, sauver ou du moins grandement améliorer la vie d'un individu. Donc là, ça nous ouvre beaucoup plus les portes et ça nous laisse le temps aussi d'éduquer, de se faire connaître et de répandre un peu notre technologie.
Puis tu parles du domaine de la santé, puis justement, en ce moment, on sait qu'on vit une crise dans le milieu de la santé, donc c'est pas un secret pour personne. Là. On sait que la population aussi est vieillissante, les maladies chroniques, comme je le mentionnais en entrée, là, sont plus prévalentes. Les habitudes de vie se détériorent aussi là, pour certaines personnes, dans le sens qu'on est de plus en plus sédentaire. Justement, on a des emplois là, qui nous forcent à être peut-être un petit peu plus passifs. Puis comment tu as l'impression qu'une technologie comme ça pourrait venir être une solution, en fait, à ces différents enjeux?
Je ne suis pas l'expert du domaine de la santé, mais si je partage mon opinion, le système présentement a un gros manque de prévention. On a un système qui est réactif, c'est-à-dire qu'on va voir notre médecin quand ça fait mal. Et il y a plusieurs types de maladies, dont les cancers, qu'on peut être asymptomatique pendant très longtemps. Et si le test serait fait, on pourrait le découvrir, mais malheureusement, il n'est pas fait. BioTwin est une solution de médecine préventive, mais aussi personnalisée. Donc, on arrive à détecter très rapidement différentes maladies. L'exemple que j'aime dire, c'est très rare qu'un individu va voir son médecin à tous les mois. Normalement, on est peut-être une fois par année, puis des fois, on est une fois aux 2 ans, ou juste quand ça fait mal. Lorsqu'on a un jumeau virtuel, bien, notre jumeau virtuel, on peut l'envoyer chez le médecin à tous les jours et on peut lui faire faire une centaine de tests qui existent déjà. Donc, très, très, très rapidement, on va être capable de détecter. On a la même approche, c'est-à-dire que BioTwin ne fait pas du diagnostic, mais on aide le médecin à faire le diagnostic. Donc, on est capable de cibler, de voir certains profils, certains biomarqueurs ou conditions, et on va viser le docteur. Et ce qu'on vise, c'est une approche proactive où le professionnel, le médecin, va appeler son patient et dire « Je pense qu'on va peut-être faire des tests, on va peut-être pousser. » Donc ça, c'est la première étape, amener le côté beaucoup plus prévention. Et la deuxième, c'est personnaliser. Si on prend 10 hommes de 35 ans qui ont la même condition, le même cancer, le même phénotype, présentement, la médecine va offrir le même traitement. Alors que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Mais avec BioTwin, on peut profiler les gens et arriver avec une approche personnalisée. Donc, on va simuler lequel des traitements serait le plus optimal. Donc, lequel pourrait générer des effets secondaires. Donc, c'est des outils de plus qu'on donne aux professionnels de la santé pour vraiment adapter et pour nous amener vers une médecine beaucoup plus personnalisée.
Je connais pas beaucoup l'intelligence artificielle, mais en fait, je me demande, est-ce que ça prend du temps à la technologie, si on veut, pour ramasser cette panoplie d'informations sur le sujet, puis de faire ses propres tests là, de profilage pour dire, bon, par exemple, tel individu bon, va être plus à risque de développer telle maladie ou il répondrait davantage à tel ou tel traitement. Est-ce que ça prend, par exemple, un an là, qu'on envoie des données ou c'est moins que ça? Ou...
C'est pas tant une question de temps que de quantité d'informations ou de données. L'intelligence artificielle, résumé simplement, c'est de la statistique. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos statistiques soient fiables et ça prend autant une certaine quantité d'échantillons par individu, mais aussi assez de données de référence. Donc, si je veux associer le profil de quelqu'un à un type de cancer, je dois avoir, bien, nos projets de recherche, on a accès à des biobanques phénotypées. Donc, je peux comparer, si on a présentement en nutrition, on a accès, grâce à l'IUCPQ, à des biobanques de gens obèses. Donc, on peut comparer un profil normal et un profil obèse. Donc, on apprend notre intelligence artificielle à reconnaître certaines conditions. Lorsqu'on aura une centaine de milliers d'usagers, bien, à travers ces usagers-là, il y a différents types de conditions. Donc là, on peut apprendre à même nos usagers. Mais d'ici là, c'est un mélange de biobanques, de projets de recherche avec des gens phénotypés et aussi des informations existantes. On utilise, il y a plusieurs données publiques qui sont disponibles qui nous permettent d'associer ou de créer certains phénotypes ou autres. Donc, si j'aurais à mettre un temps, on vise la santé d'ici 3 ans. Et lorsqu'on sera rendu là, ben un individu, en quelques semaines, quelques mois, on peut créer un profil assez précis qui va nous permettre de l'associer à différentes conditions.
Puis tantôt, tu parlais de prévention. Puis en fait, ça me faisait penser parce qu'on... Tu sais, l'intelligence artificielle commence à arriver un petit peu, là, mais pas tant que ça non plus dans le système de santé. Notamment, tu sais, on pourrait par exemple... penser qu'un jour, il n'y aurait plus de radiologistes parce que, bon, la machine serait assez bonne là, pour reconnaître justement des radios. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une certaine limite aussi avec l'intelligence artificielle et l'humain, dans le sens que peut-être que la machine peut avoir de la difficulté à bien comprendre un humain qui est très complexe dans sa globalité, ou tu as l'impression que justement, il y a des choses que vous pouvez mettre en place là, pour pallier à ça?
Je vais répondre en citant un expert du domaine qui s'appelle The Medical Futurist qui dit « L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un médecin, mais les médecins qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle vont se faire remplacer par ceux qui l'utilisent. » Je ne pense pas que demain matin ou dans un futur proche, on peut éviter un professionnel. L'aspect humain est très important. Il y a toujours des exceptions. Une machine, ça reste des statistiques et... autant l'intelligence artificielle peut faire de grosses erreurs qu'elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être validée. Donc, c'est pourquoi l'approche de BioTwin, c'est d'être un outil d'aide au diagnostic. On ne veut pas et je pense pas qu'on pourrait faire du diagnostic parce que ça a l'air très beau. On dit qu'on peut découvrir énormément de conditions. On couvre très large, mais on sera jamais très précis. Donc, on ne devra jamais utiliser notre solution pour remplacer une biopsie, une imagerie médicale, un test sanguin précis ou l'opinion d'un professionnel. On fait juste amener de manière préventive, on va rapidement lever un drapeau rouge pour un professionnel et on va l'éclairer ou regarder et personnaliser le traitement. Donc, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer, mais ils vont travailler très bien de pair.
Puis, as-tu l'impression que si on y va dans un côté plus éthique, là, quand on pense à l'intelligence artificielle aussi, on peut aller un peu loin, puis on peut imaginer que il y a certains individus qui pourraient avoir des réticences aussi à l'utiliser, notamment par rapport aux données massives là, qui pourraient être envoyées un peu à tout le monde. Puis, comment vous faites actuellement pour adresser cette question-là, d'une certaine sécurité, puis combler cet aspect-là éthique là, des données?
L'éthique et la transparence, quand on parle de données santé, sont extrêmement importantes. Notre modèle d'affaires a été conçu en conséquence. C'est-à-dire que, premièrement, on offre une complète anonymité avec l'usager. Donc, en aucun cas, est-ce qu'on collecte l'information qui nous permet d'identifier un usager. C'est le professionnel de la santé qui, lui, va lier l'usager et le nom d'utilisateur de BioTwin. Et les seules informations qui sont partagées aux professionnels de la santé, ce sont les informations sur le service qui est demandé et non l'information sur des biomarqueurs précis. L'exemple que j'aime donner, si un sportif, peut-être pas un bon exemple, mais on permet de comprendre, si un sportif qui s'entraîne prend des stéroïdes, il ne voudra pas que son coach le sache. Nous, les seuls services qu'on va passer sur son profil, c'est les services auxquels il a donné son accord. Donc, détecter la fatigue, détecter le surentraînement, prédire les blessures. Donc, il va avoir donné son accord. Les seules informations qu'on va partager avec son entraîneur, c'est est-ce que oui ou non on détecte telle chose. Mais on ne partagera pas un profil de biomarqueur qui pourrait allumer d'autres choses. C'est un exemple, mais dans le même exemple, si ce même athlète-là a un cancer, on ne le détectera jamais. Parce que c'est pas le service qu'on va faire et c'est aussi pas la job d'un coach sportif d'annoncer à un athlète qui a un cancer. Donc, on est très transparent. Souvent, on dit, il y a une expression qui dit que si on paye pas pour un service, ben c'est nous le client. Je pense que c'est le cas un peu de Facebook ou Google qui fait de l'argent avec nos données. Dans notre cas, on est transparent. Et c'est pas le client qui paye pour, mais c'est son partenaire, que ce soit le coach ou le professionnel de la santé, qui, lui, utilise ces données-là, qui partage les résultats. Bien, c'est eux qui vont payer pour ce service-là. Donc, il y a quand même une transparence. On ne fait pas de l'argent dans le dos de l'usager.
Est-ce que tu as l'impression que dans un avenir plus ou moins rapproché, des compagnies d'assurance pourraient, par exemple, demander d'avoir accès à ce genre de données sensibles sur la santé d'un individu pour venir moduler, par exemple, justement, une prime d'assurance?
Oui, et c'est ce qu'on vise, mais je le vois très positif. C'est-à-dire que BioTwin ne peut pas et ne fait pas de la prédiction à long terme. Je ne peux pas dire à un assureur, tu ne devrais pas assurer telle personne, il va avoir un cancer dans 5 ans. Je ne suis pas dans la génétique. On est plus dans les biomarqueurs très, 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 et l'environnement très court terme. Bon, ils le font déjà lorsqu'ils font des analyses initiales, mais nous, ce qu'on peut faire pour un assureur, c'est lui dire, si ton client est suivi par BioTwin, tu peux réduire sa prime possiblement de moitié ou à vouloir, mais tu peux réduire le montant de la prime parce que s'il y a une maladie, on va la détecter très, très tôt. C'est prouvé qu'un cancer ou toute maladie détectée très tôt, on sauve énormément dans les coûts, que ce soit pour la régler dans le temps où la personne peut être non disponible, et on va aussi aider à prolonger la vie de l'individu. Donc, si on prolonge la vie de l'individu, il va payer des primes plus longtemps, donc on peut réduire le montant de ses primes. Donc, on voit ça gagnant vraiment pour l'usager, pour la compagnie d'assurance et pour tout le monde. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on pourrait accompagner des compagnies d'assurance ou une autre opportunité, c'est accompagner des pharmaceutiques dans les essais cliniques. Donc, lorsqu'une compagnie fait un essai clinique, c'est minime les informations qu'ils vont valider sur un individu. Bien, nous, en les accompagnant, on peut leur donner beaucoup plus d'informations sur l'individu. Est-ce qu'il y a des réactions qui n'ont pas été démontrées, qu'il n'y a pas de symptômes, mais qui pourraient être un problème. Donc, ça va les aider, ça va renforcer leur dossier pour leur approbation clinique et autres.
Okay. Donc, vraiment, beaucoup d'applications possibles. Tantôt, tu parlais justement que vous n'utilisez pas nécessairement la génétique, en fait, mais tu parlais quand même d'une personnalisation, puis notamment quand tu parlais de ta prochaine étape, là, qui est plus au niveau de la nutrition. Donc, je comprends que vous analysez pas nécessairement la réponse d'un individu par rapport, par exemple, à son alimentation versus sa propre génétique. C'est plus des biomarqueurs, justement, de ses apports alimentaires ou de sa santé?
C'est différentes choses. À partir des échantillons qu'on collecte, on est capable de voir l'alimentation, une partie de l'alimentation d'un individu. C'est une chose que les nutritionnistes trouvent très agréable. C'est-à-dire, ce qui est très difficile pour les clients des nutritionnistes, c'est de remplir un journal alimentaire. Ça prend une énorme discipline. Bien, si on est capable d'en remplir la moitié ou les trois quarts de par ce qu'on voit, bien, déjà là, c'est quelque chose d'utile où on peut détecter les intolérances et différentes choses. Concrètement, la science, la génétique qui génère des instructions, l'ARN, pour fabriquer des protéines, qu'on pourrait dire est un peu la base de la vie, les protéines sont dégradées en petites molécules, les métabolites. Donc, le métabolome, c'est une science qui est vraiment plus récente. Et je dirais, on est peut-être à 4-5% des métabolites qui ont été identifiés. Il y a une grosse partie de ces molécules-là, de biomarqueurs, qui n'ont pas été identifiés. C'est un des focus de notre intelligence artificielle. Ça a un lien direct avec un individu. Donc, c'est le résultat du métabolisme, des activités d'un individu, de l'environnement, de l'alimentation. Donc, c'est un de nos focus. Donc, pour bâtir un jumeau numérique, c'est entre autres ces informations-là, l'information sur les protéines qui nous donne une bonne information. Et on fait pas la génétique parce que ça nous permettrait d'identifier un individu. On regarde certains marqueurs génétiques, donc on est très limité à ce niveau-là pour justement ne pas identifier l'individu.
OK. Donc, mais ça vous permettrait quand même, quand tu parles des métabolites, puis de comprendre justement le métabolisme de chacun, ça permettrait d'orienter un type d'alimentation aussi qui serait peut-être plus favorable à certains individus, parce qu'on sait que l'alimentation, disons, plus standard, bien, ça ne fait pas nécessairement à tout le monde. Donc là, ça vous permettrait de faire ça sans nécessairement aller dans la génétique, si je comprends bien.
Exactement. Et le défi de la génétique, c'est qu'on est très loin du phénotype. C'est pas parce qu'on a des marqueurs génétiques qui vont nécessairement s'appliquer. Si on a des marqueurs génétiques d'un cancer, ça veut pas dire qu'on va développer le cancer, et c'est encore moins précis à quel moment est-ce qu'on va le développer. Donc, ça peut nous dire une intolérance, mais ça la confirme pas. Tandis que nous, les biomarqueurs qu'on va profiler sont directement liés à une réponse du corps. Mm-hmm. Donc, ça permet de valider est-ce que l'alimentation présente est bonne, est-ce que le changement d'alimentation est bon ou mauvais, de simuler différentes alimentations, c'est trouver qu'est-ce qui ne va pas. Encore là, on n'est pas un outil précis à 100%, c'est pas le but. Puis c'est pourquoi on travaille avec le professionnel qui va être un nutritionniste qui va pouvoir adapter l'information qu'on va donner.
Est-ce que vous avez déjà entamé un peu cette discussion-là avec certains professionnels de la santé? Là, ça va être les nutritionnistes ou les médecins, entre autres. Est-ce que la réponse semble intéressante?
La réponse, elle est excellente, tant au niveau du sport avec qui on a commencé, mais au niveau de la nutrition, on collabore avec Andréane Martin, le groupe d'Andréane Martin, nutritionniste. On a aussi, dans notre projet parrainé, on travaille un petit peu avec l'INAF, qui nous a beaucoup aidé à encadrer notre projet. André Tchernoff, qui est un chercheur en obésité assez reconnu. Et on a la chance, sur notre conseil d'administration, on a le président Weight Watchers Canada. Donc, on est bien entouré pour monter notre projet qui va débuter là, en 2022 au niveau de la nutrition. Et un des défis, c'est d'aller leur demander, voici l'outil qu'on peut vous offrir. Si on vous crée un jumeau numérique d'individus, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est le but du projet pilote, de l'adapter, parce qu'il faut que ça soit commercialement viable. Les journaux alimentaires, c'est beau en théorie, mais en pratique, il y a peu de gens qui veulent l'utiliser. Donc, on ajuste avec eux qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est utile pour eux. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire.
Voilà. Crois-tu que cet outil-là du BioTwin va être accessible universellement parlant? Puis, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on sait qu'il y a quand même des enjeux en ce moment d'inégalité en santé. Donc, on sait que, bon, que les gens qui sont moins éduqués, qui ont un revenu aussi socio-économique plus faible, bien, souvent sont en moins bonne santé. Est-ce que ces gens-là, tu crois que ce serait accessible malgré tout d'avoir ce genre d'outils-là ou d'aide?
Mon opinion personnelle, c'est que ça va être une révolution pour eux. Puis j'aime faire l'analogie. En Afrique, on n'a pas de téléphone filaire. On a sauté la technologie pour aller au téléphone cellulaire directement parce qu'ils n'ont jamais eu l'argent pour bâtir l'infrastructure. Je pense que les pays sous-développés, si je prends exemple le nord du Québec ou des pays en Afrique où on n'a pas accès à des hôpitaux de qualité, on est un outil qui serait parfait parce que à très beaucoup, de manière très simple, se piquer le doigt, puis mettre des gouttes de sang sur un papier, puis ensuite le donner par la poste, c'est très facile. Donc, à distance, on est capable d'avoir un suivi personnalisé, proactif, très, très, très complet. Fait que ça ouvre des portes de prévention et de médecine à des communautés qui n'ont pas accès à ça présentement. Donc, une communauté qui a qui ont des problèmes qu'un individu, présentement, il ne peut pas vraiment avoir accès à un médecin. Donc, ça ouvre une porte qui, selon moi, va être révolutionnaire.
Bien, merci beaucoup. Puis, on a vraiment hâte de suivre ça dans les prochaines années, assurément. Donc, bonne chance avec le projet.
Merci, Catherine.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivé au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!